France Culture, il est 7h10, c'est l'heure de l'invité culture en compagnie ce matin d'Emmanuel Laborie. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Laborie, vous êtes comédienne, vous avez notamment eu le Molière de la Révélation théâtrale, c'était en 93 pour Les Enfants du Silence. Un an plus tard, vous publiez votre autobiographie qui racontait votre parcours dans Le Cri de la Mouette. Vous dirigez l'IVT, International Visual Theatre, qui est dédié à la culture sourde. C'est dans le 9e à Paris. Et merci à Florine Archambault qui va traduire vos propos, les interpréter, je ne sais pas comment il faut dire, puisque vous vous exprimez dans la langue des signes. Et puis si nous avons eu envie de vous inviter ce matin, c'est d'abord parce que vous êtes la marraine, avec Abdelmalik, de la semaine de la francophonie et de la langue française. Mais puisqu'on vient d'écouter ce titre de Pomme qui parle d'anxiété, moi j'aimerais d'abord savoir si la situation du moment vous rend anxieuse, notamment en tant que directrice de théâtre, parce qu'on sait que dans le domaine de la culture, il y a beaucoup de représentations, de manifestations qui sont annulées.
Alors en effet, c'est vrai que là, vu la situation, on en parle beaucoup, et effectivement, c'est très difficile, toutes ces fermetures sont très difficiles. Ce qui m'angoisse, moi, c'est qu'on coupe finalement le lien avec les gens, le lien avec les humains, en fait. Et qu'on nous interdise aussi, en fait, le confinement, moi, m'angoisse un peu. C'est ça qui m'inquiète le plus, je pense. Mais c'est vrai que nous sommes un lieu public, IVT, c'est vrai, vous l'avez dit, et donc évidemment, nous avons aussi des partenaires publics, hein, qui sont responsables de la sécurité. Je ne suis pas la seule en plus à diriger IVT, je suis la co-directrice, puisque c'est Jennifer Lesage-David qui est avec moi, et ça, c'est plutôt agréable, en ces temps un peu troublés, d'être deux à décider, deux à pouvoir réfléchir aux mesures qu'on prend, et puis évidemment, suite à la mesure des rassemblements de plus de 100 personnes, nous avons du tout coupé la programmation, la saison en cours. Et ça n'est pas évident pour les artistes, pour les compagnies, pour la vie de chacun. En fait, on souhaitait les accueillir de la meilleure façon, on souhaitait faire un vrai partage avec le public. Et là, oui, on reste un peu sur notre faim. C'est difficile d'accepter, c'est vrai. Et j'espère que la situation, évidemment, ne durera pas, je pense, comme tout le monde, et qu'on s'en sortira rapidement.
Voilà, je crois qu'on l'espère tous. En effet, on aura l'occasion tout à l'heure de parler de votre travail à l'IVT. Mais commençons donc par cette semaine de la francophonie dont vous êtes la marraine. Ça consiste en quoi, d'abord, d'être la marraine de cette semaine de la francophonie, Emmanuel Laborie?
Alors c'est une bonne question. Très honnêtement, en fait, le CSA et tous les partenaires qui me voient un petit peu comme une représentante, je dirais une ambassadrice de la culture et de la langue des signes française. Puisque souvent, on pense à la langue des signes comme une petite sous-langue ou un langage même parfois, et une sorte de langue régionale, un peu de patois, alors que non, c'est une langue des signes, c'est la langue nationale des signes, à l'égalité de la langue française. Et en plus, justement, cette langue française, c'est une langue d'adoption pour moi, puisque ça n'est pas une langue naturelle, je n'entends pas la langue française, je m'exprime en langue des signes française, par contre la langue française, c'est ma langue d'adoption. Et la langue des signes, évidemment, pourquoi c'est ma langue? Parce que j'ai un retour, je la vois, je sais comment je m'exprime. Évidemment, avec le son, je ne vois pas, je n'ai pas le retour. Mais évidemment, à l'école, malgré tout, c'était les mots, c'était l'oral, donc la langue française est ma langue d'adoption. Mais lorsque je travaille dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, la langue française et la langue des signes sont en permanence en lien, en fait. Elles se nourrissent l'une l'autre, elles sont en mutuel enrichissement, en fait. Et pour moi, être marraine, c'est représenter un petit peu. C'est aussi mon combat contre l'illettrisme, mon combat contre l'ignorance. Et avec Abdelmalik, hein, on partage vraiment ces idées-là, de se battre pour l'accès au savoir pour tous, en fait, via la langue de communication qu'il souhaite. Parce que dans les quartiers dans lesquels il travaille aussi, c'est intéressant, la transmission du savoir, on voit un petit peu la norme comme quelque chose d'inaccessible, alors que finalement, ce qui nous représente, c'est la diversité. Et je trouve que cette philosophie nous ressemble tout à fait. On est plein de couleurs différentes, en fait, dans cette société. Et je pense que c'est ça qu'on représente aujourd'hui en France.
Est-ce que vous y voyez aussi une forme de reconnaissance justement pour cette langue des signes, le fait d'avoir été choisie comme marraine avec Abdelmalik?
Oui, c'est vrai. Une reconnaissance, effectivement. En plus, elle est reconnue aussi, cette langue, dans la loi, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que ça ne suffit pas. On en reste un petit peu toujours au papier, donc c'est vrai que mon rôle de marraine est important. Mais j'aimerais que dans la vie de tous les jours, aussi dans les médias, on parle de la langue française et de la langue des signes dans les médias de cette semaine-là, hein, c'est le thème de cette semaine. Et justement, dans la radio, par exemple, moi je n'ai jamais regardé, même aujourd'hui parfois lorsque les radios sont filmées. À la télévision, c'est pareil, moi je ne regarde presque jamais la télévision, la place de la langue des signes n'y est pas en fait, elle n'existe pas. Il y a parfois du sous-titrage, hein, c'est mieux de mieux, évidemment il y a eu des évolutions, Mais la convention de l'ONU a été quand même ratifiée en 2010 et rend obligatoire normalement l'accessibilité en langue des signes à 100%. Mais vous connaissez la situation en France et nous sommes toujours en retard par rapport à certains aspects. Et je pense que là, on est très frileux. Hein. Faire venir un interprète, c'est toujours un peu gênant, ça peut être particulier, c'est cher en plus, c'est compliqué. Et c'est vrai que la langue des signes dans les médias, ça n'est pas que l'interprétation. En plus, en langue des signes, c'est aussi des professionnels sourds qui exercent le métier de journaliste, de réalisateur, pourquoi pas d'équipe technique aussi. Les personnes sourdes, ça n'est pas remplacer, c'est des compétences aussi qui existent et l'idée ce serait de travailler ensemble pour vraiment enrichir aussi cette diversité qu'elle se retrouve dans les métiers aussi de l'audiovisuel. Parce qu'on parle de la langue des signes, mais la langue des signes, ça n'est pas que la mienne, c'est la vôtre aussi. C'est la vôtre, puisque entendant et sourd, nous partageons cette langue, nous pouvons la signer tous ensemble. Là, si vous la prenez, nous pourrions discuter. C'est la langue de tous et c'est la langue du partage et de l'accès au savoir.
On me fait d'ailleurs souvent remarquer, moi alors en radio, quand j'anime une discussion ou un débat, j'ai tendance à beaucoup bouger. Est-ce que il y a aussi pour vous, Emmanuel Laborie,
tout à l'heure, je vous observe un petit peu, vous avez des petits codes aussi, j'aime bien. Oui. C'est le monde de la radio aussi qui est intéressant.
Et c'est aussi pour ça que je crois que j'aime bien la radio, peut-être par rapport à la télévision, c'est qu'on peut bouger sans se dire voilà, faire attention, on n'a pas, il y a pas une caméra qui vous suit. Est-ce que la langue des gestes, disons, c'est quelque chose qui peut se rapprocher de la langue des signes? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aussi avoir un échange avec quelqu'un qui, je reprends mon exemple, mais comme moi, s'exprime beaucoup avec ses mains et avec ses bras?
Alors, ça n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, s'exprimer, la gestualité co-verbale, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les pays du Sud, par exemple, ou même dans le Sud de la France, c'est quelque chose qui est très naturel chez les gens. Et en fait, parce que voilà, c'est une culture aussi, je parle des personnes entendantes, hein. C'est une culture de parler avec les mains, voilà, de s'exprimer avec le corps entier. Et après, c'est vrai que c'est moins le cas à Paris, notamment, hein, où là, les gens sont davantage froids, quand même très réservés, beaucoup plus sur la réserve, sur la mesure, et ne bougent pas du tout le visage, sont un masque un petit peu d'émotion. Et c'est la voix qui fait l'intonation, qui fait l'émotion. Donc il y a une différence, c'est vrai, entre les gens, tout à fait. Après, on le sait que, par exemple, on a aussi cette culture française qui a fait que montrer du doigt, ça n'est pas bien, il ne fallait pas trop montrer ses expressions, etc. Donc la langue des signes, c'est vrai, c'est une langue avec le corps, c'est une langue dans l'espace, en 3D, avec des expressions du visage, avec des sourcils qui se lèvent, qui se descendent. Souvent, les personnes qui apprennent la langue des signes pour la première fois trouvent que c'est trop, entre guillemets, mais c'est une habitude à prendre, finalement, une habitude à gérer pour affiner cette caricature qu'on pense au départ quand on apprend la langue des signes. Par exemple, si je dis, par exemple, la beauté. Je vous dis que vous êtes très beau ce matin, par exemple. Je vous regarde, vous êtes très beau. Et vous êtes très beau. Donc j'utilise le signe beau, donc sur le visage, mais je peux aussi parler de la beauté en tant que concept philosophique avec un visage qui va changer et le regard qui va se pointer davantage vers le haut en parlant du concept philosophique. Et le sens change, pourtant le geste est le même. Mais en vous pointant du doigt, c'est vous qui êtes beau, et la beauté, c'est le sens philosophique. Et donc c'est tout petit, c'est un petit signe, une petite chose qui change, et finalement, les gens pensent que c'est trop compliqué, mais en fait, non, c'est très simple, il suffit de l'apprendre et de le maîtriser. Donc voilà, c'est là la différence, je pense.
Et ben voilà, une matinée qui commence extrêmement bien en ce qui me concerne. Emmanuel Laborie, je reviens donc à la question de la francophonie et de la langue française. Est-ce qu'il y a une francophonie de la langue des signes, ou bien est-ce que c'est un langage universel qui permet de s'exprimer pour les personnes qui sont sourdes dans n'importe quel pays du monde, ou bien est-ce qu'il y a des particularités, disons, très françaises dans la langue des signes? Comment ça se passe? Et je rappelle que vos propos sont traduits par Florine Archambault.
Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant comme question. Alors quand on parle de la langue des signes française, elle a une forte influence, elle porte ses racines dans pas mal de pays. Même par exemple dans les dom-toms, en Martinique, en Guadeloupe, etc., la langue des signes est très différente, notamment par rapport au créole, évidemment, donc il y a une couleur qui n'est pas la même, un vocabulaire, un lexique, un aspect culturel aussi, par exemple, pour touristes, c'est pas exactement le même signe. Donc il y a une richesse de signes lexicaux, même si la langue des signes française reste la racine des personnes qui la parlent. Oui, donc il y a une francophonie, je dirais, de la langue des signes, en effet, mais il y a évidemment toute l'histoire aussi de leur pays, l'esclavage, le colonialisme, etc. Par exemple, le signe blanc. Ils font blanc sur la joue, de leur côté, pour signifier finalement la couleur, ou blanc sur le bras, l'avant-bras, alors que nous faisons le blanc par rapport à la plume blanche. Et donc c'est intéressant aussi, le concept de patron, par exemple. Le concept de patron, est différent. Il y a une influence historique qui est capitale dans le lexique et dans les langues. Donc elle a une francophonie, mais il y a quand même évidemment des particuliers. Après, au Canada, au Québec, le français aussi est influencé, mais ils ont quand même une langue des signes québécoise, qui est vraiment leur langue des signes et qu'il faut réapprendre. Elle n'est pas la même que le français qu'on peut vraiment discuter avec les Québécois, je dirais. Il y a vraiment un aspect très culturel et chez eux, leur style est vraiment très différent de la langue des signes française ici, en métropole, je dirais. Et il y a aussi ici, nous, l'histoire qui a... on a interdit la langue des signes dans l'éducation, et donc forcément, ça aussi, ça a une influence. Dans les pays d'Afrique, il y a une francophonie de la langue des signes, parce que souvent, ça a été les Américains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, en fait, souvent dans les pays colonisés par les Anglais, ils utilisent la langue des signes américaine, mais par contre, parlent français. Donc, c'est intéressant de voir ces différences culturelles. Par exemple, « maison », eux, ils font « home » comme ça, donc comme en ASL, alors qu'ils disent « maison » avec les lèvres, mais signent le mot en américain. Donc, c'est intéressant ce mélange de culture-là aussi, parce que, en fait, ça a été aussi beaucoup plus long, et souvent, ils ont fait un copier-coller de la langue des signes américaine, et leur culture, parfois, n'apparaît pas forcément dans la langue des signes, donc c'est intéressant, ça va de mieux en mieux, hein, la langue des signes évolue aussi dans ces pays-là, mais... Alors, pour répondre à votre question, je m'égare un peu. Est-ce qu'il y a une sorte de code, une langue des signes internationale, à votre avis? Je vous repose un petit peu la question. À votre avis, est-ce qu'il y a une langue des signes internationale?
Moi, je dirais que oui. Avec des nuances, alors, mais oui, quand même, peut-être une base, une sorte d'espéranto, peut-être, qui serait les...
Alors, en effet, il y a quelque chose de tout ça, et souvent... En fait, je le répète évidemment, mais je vous l'avais bien sûr précisé, la langue des signes française, c'est celle que je parle, la langue des signes américaine, donc si je dis j'emploie ces deux mots, c'est qu'il n'existe pas de langue des signes internationale officiellement. Par contre, c'est vrai, vous avez raison. En fait, il y a vraiment des signes internationaux, mais par contre, qui n'utilisent pas du tout la racine, le lexique du pays. C'est vraiment une sorte d'iconicité, de simplification des concepts peut-être, parce que on y arrive, oui, vous avez raison, il y a une sorte de base, puisque la structure, la grammaire, la syntaxe, c'est la même chose en langue des signes de tous les pays. Par contre, le vocabulaire, le lexique, la façon de voir le monde est très différente. Mais la place du corps, le 3D, les expressions du visage, parler du passé en regardant derrière et parler de l'avenir en regardant devant, par exemple, ce sont des concepts qu'on retrouve et qui sont compréhensibles de chacun, même si nous ne parlons pas la même langue au départ. Moi, je me suis déplacée 3 fois au Japon, par exemple. Et au Japon, ça a été quand même un choc culturel, même si on partageait cette langue des signes. Parce que les langues des signes sont tellement éloignées les unes de l'autre, elles n'ont rien à voir entre elles. Même en essayant d'utiliser des codes internationaux avec des personnes qui n'ont pas voyagé, on n'a pas réussi à communiquer. Il y avait vraiment un mur entre nous, même entre personnes sourdes. Alors que quand il y a des personnes, évidemment, qui sont plutôt dans le voyage et qui, oui, se déplacent, là, effectivement, oui, on peut discuter, mais... Comment dire? C'est très imagé, je dirais. C'est davantage de l'iconicité, ou c'est des paraphrases très longues. Par exemple, pour dire papa, il faut revenir à un homme et une femme se sont mis ensemble et ont fondé une famille. Cet enfant, c'est moi. Et donc, lui, tu l'appelles comment? Papa, d'accord, ok. Donc, vous voyez, ça quand même assez long. Même s'il y a une base, effectivement, mais ça n'arrive pas en 2 minutes, quoi.
Ah bah, puisque vous évoquez le Japon, Emmanuel Laborie, ça va nous permettre d'évoquer une autre façon dans laquelle la langue française peut s'exprimer. On parle de la langue dans son oralité, la langue française des signes, et puis il y a aussi la langue écrite. Vous allez comprendre pourquoi j'évoque à nouveau le Japon à ce sujet, mais je voudrais d'abord savoir, puisque donc vous êtes la marraine de la semaine de la francophonie et de la langue française, vous, comment s'est fait votre apprentissage de la lecture? Est-ce que le fait que vous soyez sourde déjà a compliqué cet apprentissage, et est-ce que vous avez, deux questions en une, un souvenir de votre premier apprentissage littéraire? Est-ce que vous vous souvenez quel est le premier livre que vous avez, si ce n'est lu, en tout cas apprécié?
Alors, ça me plaît comme question. En fait, ma relation avec la langue française, et donc à la lecture, à l'écriture, ne vient pas de l'école. À l'école, honnêtement, ça a été très compliqué l'apprentissage. Oui, en effet, c'était difficile, c'était que de l'oral que je n'avais pas, que je ne comprenais pas. Je devinais en lecture labiale éventuellement ce qui se disait, mais avec des trous, imaginez-vous, si on vous coupe l'audition complètement, il faut regarder vos collègues, regarder la télévision en essayant de lire sur les lèvres, forcément. C'est ce qu'on vivait quand on était petit. Évidemment, ça n'a pas apporté la beauté. Par contre, merci à ma famille, qui m'a apporté vraiment cet héritage de l'amour de la langue et de la culture aussi. Et en fait, ils ne m'étaient jamais la pression, ils ne m'ont jamais forcé à rien, même par rapport à la lecture. Ils ont été très malins, je pense, parce que c'était une stratégie finalement que je n'ai repérée qu'après. Et donc en fait, souvent, ils me disaient « qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Ils me faisaient une sorte de présélection, un petit peu, en fonction de mon caractère. Et donc, lorsqu'on allait à la bibliothèque avec mes parents ou dans les librairies, c'est moi qui choisissais par contre. Et comment je choisissais ? Par les images. Parce que je trouvais les couvertures très belles, les configurations, l'aspect du livre, le titre aussi. Pourquoi pas, qui était joli, ou voilà. Mais c'est tout.
Je fais un peu pareil,
c'était,
moi.
C'était... Et oui, oui, comme quoi, il y a quand même un instinct, quand même, je trouve. Et donc, voilà, je choisissais des livres et je les lisais, je les lisais beaucoup, je les dévorais. Après, la lecture, la littérature française, pour moi, est magnifique, mais très compliquée. Puisque la lecture, ça n'est pas la même chose que s'exprimer à l'oral, hein. Évidemment, l'économie de l'écrit n'est pas celle de l'oral, et j'imagine que c'est bien sûr comme les entendants, hein. On ne parle pas comme on écrit, bien sûr, on ne lit pas comme on parle non plus, l'écrit est très différent de l'oral, pour moi, évidemment, c'est pareil, et il y a une structure, une linéarité, une façon, en fait, d'écrire qui est vraiment très française, et qu'il faut, je trouve, assimiler et adopter, en fait. Et lorsque ça crée des images, lorsqu'on lit et qu'on crée des images, moi, ça devenait presque un film. Je devenais presque metteur en scène ou réalisatrice. Je lisais quelque chose et c'était pourtant du papier, hein. C'était en 2D, écrit noir sur blanc. Et c'était incroyable parce que ça provoquait derrière vraiment une imagination et voilà une sorte de petit film. Et ça, j'adorais. Le premier, pour répondre à votre question, finalement, c'était les bandes dessinées et c'était Tintin. Je ne savais pas encore lire vraiment à l'époque. J'étais petite, hein. J'avais 3-4 ans. Donc je regardais les images, image par image, essayais de comprendre. Je voyais des bulles, je me rendais pas compte que ça voulait dire forcément ce qui est inscrit dedans, mais je voyais leurs expressions du visage aussi, les situations parfois difficiles avec des montagnes, il y avait des gorilles, etc. Je me rappelle très bien de ça. Ça a été une première émotion quand même littéraire, parce que lorsque j'ai commencé à apprendre à lire, je me suis rendu compte qu'il y avait des clés en fait de lecture que je n'avais jamais vues avant dans ces BD que j'avais dévorées petite et que j'avais découvert un autre monde en fait par la lecture. Voilà. Pour vous répondre un petit peu.
Alors, autre émotion littéraire, et puisque vous nous disiez, Emmanuel Laborie, que la langue française à l'écrit, elle est un petit peu difficile, c'est peut-être ce qui explique le fait que, quand on vous a demandé de choisir des textes dont vous aimeriez lire un extrait, vous nous avez notamment parlé d'Haruki Murakami, Kafka sur le rivage, dont vous allez nous lire, avec toujours Florine Archambault, la première page. Donc, vous allez nous lire dans la langue des signes, je vais pouvoir vous regarder, ainsi que toutes les personnes qui sont en régie. Et puis, Florine va vous accompagner dans cette lecture du texte.
Avec plaisir. Avec grand plaisir. Un garçon nommé Corbeau. Un garçon nommé Corbeau. Et pour l'argent, ça s'est arrangé ? Demande le garçon nommé Corbeau. Il parle de sa façon habituelle, un peu lente. Comme quelqu'un qui sort à peine d'un profond sommeil et ne peut remuer ses lèvres tant elles sont engourdies. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, il est parfaitement lucide. Comme toujours. Je hoche la tête. Tu as combien à peu près ? Je lui réponds, après avoir à nouveau passé les chiffres en revue dans ma tête. Environ 400 000 en liquide. Sans compter une petite somme que je pourrais retirer avec ma carte bancaire. Ça ne suffira peut-être pas, mais c'est un bon début. Ce n'est pas mal, dit le garçon nommé Corbeau. C'est un bon début. Je hoche la tête. J'imagine que ce ne sont pas les étrennes du Père Noël, poursuit-il. Non. Le garçon nommé Corbeau regarde autour de lui, les lèvres tordues par un sourire narquois. Cet argent sort du tiroir d'une personne qui vit dans les parages, c'est exact ? Je ne réponds pas. Il sait parfaitement d'où vient cet argent. Il n'y a pas lieu de poser des questions détournées. Il le fait juste pour masticoter.
Voilà, extrait donc de Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Juste en quelques mots et en quelques signes, Emmanuel Laborie, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte, ce livre ?
Alors, En fait, je l'ai trouvée incroyable pour plein de raisons. Et alors, bien sûr, elle est japonaise, c'est vrai, dans la langue, cette semaine-là. Mais la traduction en français était incroyable aussi pour moi, et je la trouve vraiment d'une grande, grande qualité. Moi, qui connais un petit peu la traduction, et très honnêtement, les histoires qui sont entremêlées dans cette œuvre entre un homme qui fuit sa famille avec qui il est en relation avec son père, il sera maudit par ce père-là, qui rappelle évidemment le syndrome, le mythe d'Œdipe, bien sûr, lié avec une autre histoire, un homme vieux qui n'a pas accès au savoir. Et en fait, cet enrichissement entre les deux histoires qui communiquent finalement, alors que c'est le seul qui peut communiquer avec un chat, personne ne peut le faire sauf lui. Je trouve qu'il y a tellement de concepts, tellement de symboles en fait dans tout ça, tellement de ruptures et de croisements incroyablement mythologiques, et je trouve que la source des deux histoires est vraiment incroyable. Et c'est du génie pour moi, ce bouquin. Voilà.
Ben voilà, donc on recommande sa lecture, Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. On va avoir l'occasion de lire beaucoup dans les prochains jours. On vous retrouve dans un court instant, Emmanuel Labori, tout de suite sur France Culture. Il est 7h30. Il est 7h33 sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Labori, comédienne, marraine de la semaine de la langue française et de la francophonie, et directrice de théâtre, l'IVT, International Visual Théâtre, dédié à la culture sourde. Emmanuel Labori, qu'est-ce que c'est un peu plus précisément que ce que je viens de dire, ce théâtre? C'est un lieu de représentation, c'est aussi un lieu de formation, je crois. Et je rappelle que Absolument. Florine Archambault interprète vos propos.
Absolument. IVT, en fait, a été créé maintenant, ça fait 43 ans que ça existe, hein. Et au départ, ça a été vraiment une création avec des situations et une ambiance, un environnement, un contexte que j'aime bien rappeler, parce qu'il n'existait pas en fait auparavant de place de la langue des signes dans les écoles. Hein. Il y a 43 ans, je le disais tout à l'heure, il y avait cette interdiction de la langue des signes dans l'école, et donc pas de culture en langue des signes non plus vraiment à l'époque. Et même les personnes avaient un petit peu honte de cette langue des signes, puisque l'interdiction a quand même duré 100 ans. Et c'était pas interdit par la loi, c'était interdit concrètement, c'est-à-dire que ça n'était encouragé par personne, et surtout c'était l'oral qui était primordial en fait. Et ce moment-là, ça a été la période il y a 43 ans du réveil sourd, c'est ce qu'on appelle le réveil sourd, et c'est à ce moment-là qu'IVT s'est monté. Et c'est intéressant parce que cette langue, on n'avait pas conscience à l'époque de ce qu'elle était, comme aujourd'hui par exemple. Il y avait une certaine honte, une certaine particularité. Et en fait, ce premier groupe qui a créé IVT, notamment Jean Grémion, Alfredo Corrado. Alfredo Corrado est un artiste sourd américain. Jean Grémion est une personne française. Et donc, on crée tous les deux ce lieu, cette compagnie, en fait, au départ, IVT. L'idée, c'était de faire de la recherche artistique sur le travail ensemble autour de la langue des signes et comment la représenter face au public. Parce que, et le public entendant a répondu présent. Il trouvait que c'était très beau, magnifique, incroyable. Comment vous avez appris la langue des signes? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'école pour apprendre cette langue des signes. C'est pour ça qu'IVT, depuis toujours, c'est vrai, il y a cette logique de culture et de formation. Puisque, finalement, l'art et la culture ou l'accès au savoir sans la langue, ça n'est pas possible. Donc, forcément, la culture et la langue sont très liées. C'est pour ça que le centre de formation a été créé aussi à IVT, qui est bien sûr un lieu de théâtre et qui existe toujours depuis aujourd'hui. La culture et le théâtre, sur scène, cette mise en scène, comment mettre en scène cette langue, mais comment linguistiquement aussi et pédagogiquement la transmettre à tout un tas de profils différents, comment la partager, comment en faire une langue de partage, pour moi c'est ça notre travail. Et je trouve que vraiment ça enrichit l'un et l'autre en fait. Et je tire mon chapeau pour les formateurs, parce qu'on en parle peu, mais vraiment c'est un travail incroyable de transmission de cette langue aux personnes entendantes qui n'ont vraiment pas l'habitude de cette conceptualisation. Ils ont l'habitude d'avoir des concepts avec la langue française, avec la voix, avec la linéarité du français, les mots les uns après les autres. Et c'est une habitude qui n'est pas la même du tout qu'en langue des signes, avec cette langue qui utilise le corps, une structure, un espace en 3D, une géographie, des expressions du visage aussi. Et vraiment, c'est un travail incroyable. Et quand on voit le nombre de personnes qui finalement apprennent cette langue, c'est très beau. On voit que ça veut dire aussi une autre forme d'expression, s'exprimer autrement, et ça, c'est magnifique. Et donc maintenant, avec Jennifer Le Sage-David, qui est la co-directrice IVT, IVT est devenu aujourd'hui, donc 43 ans après, vraiment un centre de ressources. On réfléchit à IVT, on est expert aussi à IVT, puisqu'évidemment 43 ans, c'est une expertise, hein, c'est une expérience, et on peut accompagner les nouvelles compagnies émergentes qui souhaitent aussi s'inscrire dans cet art sourd, dans cette culture de la langue des signes, ou dans cette adaptation entre le français et la langue des signes. Beaucoup de personnes se posent la question sur ce qu'est la culture sourde aussi, donc c'est là-dessus qu'on travaille, sur cette langue aussi qui est au cœur de notre métier. on a aussi ce rôle d'expert, de conseil, je dirais, vu l'expérience qu'on a depuis toutes ces années. Donc ça fait partie, en effet, de nos objectifs, c'est la transmission aux nouvelles générations, aux jeunes, qu'ils s'emparent un petit peu de tout ça.
Et dans ces
voilà, formes... j'espère que c'était clair.
C'était extrêmement clair, Emmanuel Laborie. Dans ces formes artistiques singulières, il y a notamment le chansigne. Qu'est-ce que c'est que le chansigne dont vous avez donné des représentations? Je crois que un des derniers spectacles que vous avez donné, vous, où on vous voyait sur scène, Emmanuel Laborie, c'était la pièce « Dévaste-moi ».
Alors, en effet, le chansigne, c'est du chant, mais avec les mains. Tout simplement, je dirais. Donc c'est une expression artistique et corporelle, un message, un rythme qui est très différent puisque ça n'est pas de la langue des signes, c'est vraiment vous quand vous entendez la radio, la musique, il y a peut-être des mots, une mélodie, une basse, une rythmique je dirais. Nous voyons cette basse, cette rythmique via les yeux en fait. Donc c'est une proposition artistique de rythme avec le corps, mais avec des signes quand même qui veulent dire quelque chose. Avec Johan Hibert, qui est le metteur en scène de Dévaste-moi, et Yann Rabalan, qui était le chorégraphe de cette pièce, et mes boys aussi, hein, qui sont la troupe bien sûr de musiciens que j'adore, avec qui je travaille. Sans eux, on n'aurait jamais réussi à monter ce spectacle de chansigne, je pense, tous ensemble. C'est grâce aux musiciens aussi qui sont en live sur scène, hein, dans la pièce. Et vraiment, c'est la voix de mes mains, en effet, qui sort sur scène. Mais ça a été... une ambiance aussi à trouver ensemble, à changer, comment donner la même ambiance finalement, avec le son, avec juste les yeux. Et en plus, adopter à mon rythme, à moi en tant que comédienne, puisque évidemment le chant n'est pas le même chanté qu'avec les mains. Donc il y a un rythme à trouver, voilà, c'est... Je ne sais pas si vous voulez d'autres choses.
Non, je voulais surtout vous faire écouter, mais enfin vous connaissez évidemment ce titre, puisque Dévaste-moi, c'était le titre du spectacle, c'est aussi... le titre d'une chanson de Brigitte Fontaine. Évidemment, les deux sont liés. C'est justement votre choix musical pour ces matins du samedi. Emmanuel Laborie, Brigitte Fontaine, Dévaste-moi.
Dévaste-moi, essouffle-moi. Envahis-moi, épille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, épresse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, écaille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi.
Voilà, Dévaste-moi de Brigitte Fontaine, extrait du dernier spectacle, d'un des derniers spectacles qu'on a pu voir à l'IVT, l'International Visual Theatre, dont vous êtes la directrice, Emmanuel Laborie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'était un plaisir.
Merci à
Florine Archambault pour avoir interprété vos propos. France Culture, il est 8h20.